bien qu'en vous invitant, des choses essentielles seraient dites, mais quand même, je vous poserai une question qui me paraît primordiale et vous y répondrez tout à l'heure. Vous avez bien dit que le politique ne dirigeait plus rien du tout et qu'il était supplanté par l'économique, mais même par le financier. J'aimerais bien que vous m'expliquiez que lorsque on change de régime au pouvoir, pourquoi ça ne change rien au fonctionnement de ces financiers. Vous y répondrez tout à l'heure. Je donne la parole maintenant à Monsieur William O'Mary, président des Restos du Cœur du Havre. William O'Mary, vous avez la parole.
Bonjour, merci aux organisateurs de m'avoir invité pour parler de l'action des restaurants du cœur et puis pour la clarifier surtout, parce que je crois que les restaurants du cœur ne sont connus qu'à travers un petit prisme de leur action. Cela dit, me donner la parole derrière monsieur le ministre, ce n'est pas un cadeau, ça va être un peu difficile, je vais faire de mon mieux. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est de la pauvreté et des nouvelles pauvretés. Il faut savoir que à côté des sans domicile fixe ou des populations qui étaient marginalisées ou mal logées, une partie des pauvres d'aujourd'hui ont un toit, mangent correctement, je ne dirais pas à leur faim, je ne dirais pas dans un grand équilibre alimentaire, mais mangent. Mais on ne peut pas se contenter d'avoir un toit et une assiette pleine le soir pour dire que c'est du bien vivre. Il faut savoir qu'ils n'ont accès qu'à des miettes de la consommation en termes de culture, en termes de loisirs, et que c'est quelque chose à laquelle ils ont complètement renoncé. La pauvreté, on parle de l'augmentation de la pauvreté. Ce que l'on constate, nous, tous les jours, c'est que la pauvreté, ce n'est pas un pic qui monte, ce n'est pas des populations qui s'empilent, c'est finalement une toile qui se tisse. Et on voit d'année en année des gens qui étaient complètement insérés dans la société. On voit des gens qui ne pensaient pas arriver dans une situation de pauvreté. Et finalement, c'est une toile qui s'étend. On va parler des personnes âgées avec qui... Pour qui la retraite ne permet plus de vivre décemment. Et les retraites n'augmentent pas, mais les charges augmentent lourdement. Il n'y a pas un mois sans qu'on parle de l'augmentation du gaz, de l'électricité, des loyers, des charges. Ils ne s'en sortent plus. C'est des travailleurs pauvres, des gens qui travaillent 3 heures, 4 heures, 5 heures par semaine et qui sont occupés de 8 heures du matin à 11 heures du soir parce qu'ils ont une heure de travail dans le quartier de l'heure le matin, une heure et demie à Montgaillard et puis encore 2 heures le soir de 18 heures à 20 heures et qui n'arrivent plus à chercher du travail décent. Et on voit aussi... au Havre particulièrement, parce qu'il y a une expérience montée par les restaurants du cœur, les étudiants. On a été alerté sur la pauvreté des étudiants et nous avons créé une permanence spécifique pour les étudiants du Havre qui, la première année, a mené une centaine d'étudiants chez nous. Et cette année, puisque nous nous calquons sur l'année universitaire, nous avons à peu près 400 étudiants qui sont déjà là toutes les semaines et à qui nous donnons à manger pour toute la semaine. Et toute cette aide alimentaire, certains témoignages d'étudiants nous ont dit que ça les avait aidés à se libérer de cette recherche quotidienne pour bouffer. Excusez-moi du terme, c'est le terme que eux utilisent et que ça les avait aidés dans leur réussite, dans leurs études. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que toute la démarche des restaurants du cœur s'inscrit dans une démarche d'insertion. Et je vous dis très clairement, on ne donne pas à manger à des gens qui ont faim. Ce n'est pas ça le but de notre démarche. D'ailleurs, Véronique Colucci, la veuve de Coluche, dit toujours que si demain on fermait les restaurants du cœur, les personnes ne souffriraient pas de malnutrition, mais d'un grand sentiment d'abandon. Parce que l'aide alimentaire, c'est un levier qui fait venir les personnes vers nous. Et ces personnes-là, quand elles viennent au restaurant du cœur, elles peuvent se poser. Et en discutant avec eux, on leur dit, voilà, l'aide alimentaire qu'on va vous apporter, c'est une aide pour vous permettre d'accéder aux choses que vous vous refusez aujourd'hui. Aller s'acheter un livre, aller au cinéma une fois de temps en temps, se payer une place de théâtre. Vous voyez, vraiment des choses auxquelles ils ont renoncé. Et dans ce contexte, l'aide alimentaire, elle est toujours valorisée ainsi. Et c'est pour ça qu'on va aider sur le plan alimentaire des gens qui pourraient être dans des niveaux de ressources qui pourraient paraître suffisants, mais comme ils ont déjà dû renoncer à tout ce plaisir de la vie, on va essayer par cela de les aider à retrouver le goût de la vie. Je ne vais même pas dire du bonheur, parce que le bonheur, d'abord, c'est une notion individuelle, et puis ils sont encore loin d'une situation de bonheur. Dans ce contexte, on a créé des activités. Je vais vous parler, par exemple, des ateliers chantiers d'insertion. On accueille des personnes qui sont très loin de l'emploi, et on va leur apprendre à vivre ensemble, des gens qui n'ont jamais mis le pied dans le monde du travail, qui ont 27 ans, 28 ans, voire 30 ans, voire 40 ans, des mamans abandonnées, des gens seuls. Vous savez, les mamans abandonnées, c'est un gros pourcentage des personnes que nous accueillons au Restaurant du Cœur. Et on va leur apprendre tout simplement à se lever le matin, arriver à l'heure, recevoir des ordres, exécuter des ordres, travailler en équipe, respecter les personnes avec qui ils sont au quotidien. On ne va même pas les qualifier, on ne va pas leur apprendre un métier. Et quand ils vont sortir des Restaurants du Cœur, seulement à ce moment-là, ils auront la capacité d'aller apprendre un métier ou d'avoir une formation qualifiante. On va chercher les gens qui sont le plus loin de l'emploi. Et croyez-moi, c'est une bataille qu'on doit mener tous les ans avec les institutionnels, parce qu'on pense globalement que ces gens-là, il ne faut pas investir sur eux, il faut les laisser sur le bord de la route. Et nous nous battons, et cette année encore, nous avons eu énormément de mal avec le ministère du Travail pour le renouvellement de cette convention, parce qu'on a voulu maintenir cette éthique des Restaurants du Cœur, d'aller chercher les gens qui sont très très loin du marché du travail. Et nous sommes fiers de ce travail-là, parce qu'il y a de la réussite, au-delà de tout espoir. Nous payons des vacances et des loisirs aux personnes. Alors on nous dit, mais est-ce que ça fait partie des priorités ? Oui, ça fait partie des priorités. On paye des vacances à des gens, c'est sur des projets. Un père de famille qui a la garde de ses enfants 15 jours par an et qui n'a même pas les moyens de les nourrir, eh ben, comme il n'y a plus de lien, comme il n'y a plus de lien social, plus de lien familial, on va leur dire, écoutez, on va s'occuper de tout, on va vous payer les transports, la location, les déjeuners, les repas du matin au soir, et puis vous allez seulement vous occuper de vos gosses, vous allez retisser du lien social avec. Ou la même chose pour une maman. Et vous voyez, tout le travail qui est fait est toujours un travail d'insertion. On ne dépense pas un euro qui ne soit pas un euro dans l'insertion. On soutient des activités sportives et culturelles, comme je vous l'ai dit, sportives, et on a décidé depuis le début où nous avons lancé ces activités-là qu'il n'y avait pas le sport des riches et le sport des pauvres. Il n'y a pas ceux qui jouent au foot et ceux qui font du poney. On payera aussi bien des cours pour faire du poney, du cheval. C'est le choix d'un enfant, c'est un projet. Et on sait par les personnes avec qui nous sommes en contact que ce sport-là lui tient à cœur et qu'il mérite de le pratiquer. Donc on nous dit des fois, mais oui, mais alors vous avez payé une tenue et autres. Ben oui, on défendra haut et fort toujours qu'il n'y a pas le sport des riches et il n'y a pas le sport des pauvres. C'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Nous avons de l'insertion par le logement. Nous prenons des familles qui n'ont pas les critères sociaux. La représentante, la coordinatrice de l'activité de logement est dans la salle. Nous prenons des personnes qui sont refusées aujourd'hui par le bailleur social parce qu'ils n'ont pas les conditions. Et par un accompagnement, par des bénévoles, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais nous ne sommes que des bénévoles. Nous n'avons pas de salariés. Nous sommes tous des bénévoles. Avec un accompagnement de bénévoles, on va amener la personne à conclure une formation, finir une formation, trouver un emploi, régulariser une situation administrative, remettre en place des prestations sociales pour qu'un jour, elle ait les critères de devenir le locataire direct de la société du bailleur social. Et quand tout est bien ficelé, on se retire, la personne reste dans le même appartement, le bail passe à son nom et on peut se retirer du jeu. On estime que c'est du travail d'insertion et que la réussite est forte, et régulièrement, tous les ans, on appelle ça des baux qui glissent du bailleur social au bénéficiaire. On se retire du jeu, on continue d'être un peu là à côté des personnes et de leur apporter notre soutien. Mais tout ce travail, vous imaginez bien que ça nécessite une éthique forte du bénévolat. Et pour devenir bénévole au Restaurant du Cœur, évidemment, il faut faire candidature. Il y a un petit entretien, mais il y a une charte des bénévoles qui reprend plusieurs points, dont deux points essentiels qui sont la clé de la réussite du bénévolat. C'est l'indépendance totale vis-à-vis du politique et du religieux. Je parle bien de l'indépendance du politique et du religieux en tant que bénévole au Restaurant du Cœur. Bien entendu, nous sommes des citoyens. Bien entendu, nous avons des opinions. Et quand on nous reproche que nous contribuons à masquer la pauvreté, à maintenir les pauvres pour pas qu'ils se révoltent, parce que nous sommes des acteurs qui leur apportent le minimum quotidien, ce n'est pas vrai. Nous sommes des militants, nous militons dans d'autres associations, peut-être dans des mouvements politiques, mais nous militons. Nous ne nous contentons pas d'accompagner la pauvreté. Nous voulons resituer les pauvres au cœur de leur dispositif et nous essayons avec eux de construire quelque chose. Et je parlerai toujours de pauvres parce que vous remarquerez que quand on parle de l'Afrique, on parle des pauvres et quand on parle de la France, on parle de la précarité. Nous, on parle de la pauvreté. C'est tout simplement de la pauvreté à laquelle nous sommes confrontés. Et dans cette indépendance totale, il y a beaucoup de confusion. On doit être indépendant du religieux. Alors nous sommes allés très loin. On verra ce que ça donne. On interdit aux bénévoles de porter sur eux un signe d'appartenance à une religion. Une sœur, une religieuse, on lui interdit de porter sa croix de bois et de se faire appeler sœur. Elle doit venir en civil et se faire appeler comme tout le monde. Elle a un prénom. On a refusé de recruter des bénévoles voilés, des femmes voilées, qui souhaitaient dans leur activité montrer leur appartenance religieuse. Et c'est la charte qui l'interdit. Donc finalement, c'était un peu plus facile pour nous, et même juridiquement, parce que ce n'est pas nous qui les excluons, c'est eux qui n'acceptent pas de signer la charte et de s'intégrer dans la charte des bénévoles. Mais toute la difficulté dans ce contexte est de faire comprendre aux bénévoles que être indépendant du religieux, ça ne veut pas dire qu'en face de nous, les populations que nous accueillons ne sont pas fortement marquées par le religieux. Et notamment, un problème qui se pose de façon de plus en plus accentuée, c'est le refus des produits alimentaires qui sont basés sur un fait religieux. Et quand dans un centre de distribution, vous avez 5% de gens qui refusent les produits à base de porc, gélatine de porc, tout ça, ça pose pas de problème. Mais quand vous êtes dans un centre où il y en a 80%, les bénévoles ne comprennent pas qu'on puisse avoir faim et refuser des produits. Alors là, on leur dit, ben voilà, nous, on offre quelque chose. On a refusé de rentrer dans cette différence-là. C'est une position forte des restaurants du cœur. On n'ira pas acheter de la viande halal ou cachère ou je ne sais quoi. Il y a des végétariens, mais ils prendront que les légumes. Les gens qui ne veulent pas notre viande et nos produits cuisinés ne les prendront pas. Mais c'est une grande difficulté au sein des restaurants du cœur de faire la part des choses, de leur dire que la laïcité, c'est une chose, c'est évidemment pour une liberté de conscience du citoyen, pour arriver à un épanouissement de l'homme dans sa dimension d'individu et de citoyen, mais qu'au restaurant du cœur, ce n'est pas ça l'application de la laïcité. Et ça mérite toujours d'être bien expliqué ce que c'est que la laïcité, ce que c'est que d'être indépendant du religieux dans nos pratiques. Et je voudrais juste finir en vous disant que la pauvreté, c'est une chose qui est difficile dans ce sens qu'elle côtoie la richesse. Je pense que pour lutter contre la pauvreté, il faudra d'abord lutter contre les inégalités sociales qui sont très fortes et qui s'accentuent dans notre pays. Et puis, comme on le dit, liberté, égalité, fraternité, l'égalité, elle est loin d'être constatée par nous. Merci.